IDFM Radio, le média valdoisien.
Sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Francky et Christophe à la technique ce matin. Bonjour Francky, bonjour Christophe. Une émission à écouter en FM sur la fréquence 98.00, en web radio sur 98.fr, DAB+ sur toute l'Île-de-France et bien sûr dans le monde entier grâce à notre appli. Merci d'être à notre écoute pour ce nouveau rendez-vous de l'économie en direct, ensemble pour 90 minutes, ce matin, mardi 10 septembre 2024. Focus sur un bien-être, mais un bien-être global, qu'il soit physique, mental, émotionnel, psychologique, voire matériel. Nous verrons qu'entre un salon dédié à la santé et au bien-être et la création d'une maison dédiée au soutien et la protection des femmes en difficulté, nous nous demanderons si le bien-être, simple recherche individuelle ou solidarité et soutien collectif, peut également être considéré comme un enjeu économique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Monti, président du salon Santé Essentielle. Bonjour Pierre.
Bonjour Jacqueline.
Merci Pierre. Florence de Souza, praticienne en neurofeedback dynamique. Bonjour Florence.
Oui, bonjour.
Martin Nolot, astrologue conseil. Bonjour Martin.
Bonjour Jacqueline.
Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Tous les trois ici à IDFM Radio pour représenter le salon Santé Essentielle qui aura lieu les 28 et 29 septembre prochains au Dôme de Pontoise. Et à vos côtés, Mariam Baraka. Bonjour Mariam.
Bonjour Jacqueline.
Fondatrice et directrice de l'association Maison Solidarité Femmes 95, MSF 95. Mariam, je suis très heureuse et c'est un honneur pour moi de vous accueillir sur notre plateau. Merci également d'avoir accepté mon invitation.
Merci de m'avoir conviée. C'est un plaisir également pour moi.
Avec nous ce matin pour nous faire découvrir ce formidable challenge que vous avez relevé avec cette maison Solidarité Femmes 95 afin d'offrir aux femmes qui en ont besoin les ressources nécessaires pour surmonter des situations difficiles et se reconstruire. Et nous verrons ensemble de quelles difficultés il s'agit lors de votre interview. Alors à nouveau, bienvenue et merci à tous les quatre de participer en direct à ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio.
Qui se prennent à mon filet de voix, pauvres pêcheurs. Oh, fallait lire entre mes lignes, ne pas mordre à mes sautes d'humeur, même si je n'en suis pas. Soyons
BFM Radio, 98 FM.
C'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Monti, président du salon Santé Essentielle, Florence de Souza, praticienne en neurofeedback dynamique, Martin Nolo, astrologue conseil et Mariam Baraka, fondatrice et directrice de l'association Maison Solidarité Femmes 95, MSF 95. Et on ouvre ces interviews avec vous, Pierre, Florence et Martin. Alors Pierre, racontez-nous, Pierre Monti, racontez-nous comment cette association Santé Essentielle est née.
Alors Jacqueline, alors je suis président de l'association, pas
c'est
du
ça.
Salon, pas du salon.
Ah du salon, pardon, oui, pardon,
c'est
oui,
un détail,
je...
mais,
oui, non, non, vous avez raison
salon,
de le dire.
Il est plus dirigé par les, par
oui,
les praticiennes,
vous avez raison.
Les praticiennes qui sont extrêmement efficaces pour organiser ce salon depuis déjà 2020, puisque l'association a été créée en 2020, dédiée donc à la santé et au bien-être hein, dans le Val d'Oise, et l'objectif c'est rassembler une communauté de professionnels qualifiés pour accompagner toutes les personnes en quête d'équilibre et de mieux-être. Santé essentielle, donc on organise régulièrement différentes activités, des cafés-rencontres, des ateliers, des conférences, et donc avec des échanges, des découvertes autour de pratiques de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, le salon cette année, comme depuis déjà 3 ans au Dôme de Pontoise, se tient donc le 28 et le 29 septembre prochain. Pendant 2 ans, il a été fait dans mes locaux d'entreprise à Henry, quand on a démarré la association, et cet événement réunit quand même 40 professionnels de bien-être, donc c'est pas n'importe
oui,
quel
c'est un gros salon quand même.
Exactement, et c'est un salon dans un lieu qui est extrêmement agréable, puisque le Dôme de Pontoise c'est emblématique dans Pontoise, on est quand même très pontoisien, et c'est ce qu'on revendique, dans le sens où c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de praticiens sont pontoisiens, et on a aussi la chance d'avoir des partenaires, sponsors entre guillemets, j'appelle plutôt ça des partenaires, qui nous aident justement à pouvoir autofinancer un petit peu les dépenses diverses par des annonces, et on communique énormément par les réseaux sociaux, grâce à une praticienne, on peut la citer, Maya Parent, qui est quand même
une ancienne
professionnelle de
community manager,
voilà, une ancienne professionnelle de la communication et qui fait les choses très très bien, assistée dans les réseaux sociaux maintenant sur Facebook et autres à Pascal Fugnanesi, qui lui est un réflexologue plantaire qui s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux.
Alors Pierre, je voudrais vous poser une question. Vous dites création en 2020.
Oui.
Est-ce que ça fait tilt? Est-ce qu'il y a une relation avec le Covid?
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Aucune, non, absolument
c'était,
pas.
C'était un projet qui existait.
Alors moi, je suis dans la santé par le biais de ma fille qui est ostéopathe à Pontoise, et donc et par amitié, par relation,
c'est
etc.
Ça.
Donc on a décidé un jour avec Maya Parent et Blandine Dubois, sophrologue, de faire cette association, de créer cette association et de faire ce salon. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et ça a été crescendo. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des ambitions d'avoir à peu près plus de 1000 visiteurs pendant le week-end. C'est notre objectif.
Les autres années, vous
les
avez
années
comptabilisé 600 personnes, ouais,
600,
c'est pas mal
700.
Quand même.
Et on espère que notre commune ville de Pontoise bien-aimée va nous soutenir et nous aider. Déjà, dans le Dôme de Pontoise, c'est un lieu encore une fois extrêmement agréable, qui est très 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 beau, je veux dire. Et centrale surtout. Donc on espère que ça va être un rendez-vous incontournable, c'est surtout ça.
Mais je pense que de toute façon, c'est ce qu'on a dit en préambule, hein, le bien-être et le mieux-être est de plus en plus une recherche quotidienne. Donc j'imagine que vous devriez avoir du succès. Oui, alors vous avez un petit peu répondu à ma question, parce que j'allais vous demander comment vous aviez été attiré par cette quête d'équilibre et de mieux-être, puisque vous avez une carrière de chef d'entreprise,
oui,
Pierre.
Je suis un peu actif encore, mais bon, oui, je suis ancien président d'une entreprise de peinture pontoisienne, donc d'Henry maintenant, et donc je m'occupe bien avec d'autres activités parallèles.
Alors, ce salon, j'ai vu que vous aviez soigné sa décoration, hein, puisque j'ai pu voir qu'il y avait une décoration végétale assurée par le pépiniériste Poulain de Méry-sur-Oise. Vous aurez un bar à tisane, un stand de douceur. Voilà, vous avez veillé à ce que tout soit en harmonie.
Tout à fait. Je pense que cette notion un petit peu de plaisir parallèle, de bien-être vont s'associer donc aux thérapeutes, hein. On a beaucoup de thérapeutes qui sont présents, vous les entendrez après moi, et qui ont beaucoup de spécialités extrêmement variées. Je peux dire que cette année on a encore augmenté les thérapeutes dans leur spécialité, hein. On n'a pas que des thérapeutes, je dirais, plus classiques.
Ostéopathe, sophrologue,
naturopathie, etc. Bon, ça, on les a évidemment, hypno, etc., hypnothérapeute. Mais on a d'autres activités, l'astrologie, par exemple, qu'on avait.
On en parlera.
Feedback,
astrologie, bien sûr, tout le monde connaît, mais neurofeedback, moi, je connaissais pas du tout.
On a l'art-thérapie et la kinésiologie qu'on avait déjà depuis longtemps. On espère beaucoup. C'est pour ça qu'on est très heureux d'être accueillis à IDFM par vous, Jacqueline, parce que comme ça, au moins, ça va nous permettre certainement de nous donner encore un coup de pouce pour faire connaître ce salon.
Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout le mal qu'on vous souhaite que cette émission soit une belle visibilité. Alors ma question aussi, Pierre Monti, c'est ces thérapeutes qui vont participer au salon. Est-ce que ce sont eux qui vous contactent pour y participer ou c'est vous qui allez les chercher?
Alors en général, on est maintenant, par le fait d'une petite notoriété, on est plutôt contacté.
D'accord.
On est plutôt contacté. Je ne crois pas. Je pense que on me contredira. Je ne sais pas si vous me contredirez, mais je ne pense pas qu'on a été chercher les thérapeutes jusqu'à présent. Ils sont toujours venus vers nous. Normalement, c'est une demande.
C'est ça. Plutôt une demande. Probablement les précédents salons ont
Florence
fait que ces personnes. Oui, Florence de Souza.
En fait. Je sais qu'à un moment donné, on a regardé un petit peu toutes les spécialités qu'on avait, qui étaient présentes sur le salon, pour vérifier qu'il en manquait pas une clé. Si ça avait été le cas, on aurait été éventuellement chercher quelqu'un dans cette spécialité. Mais finalement, on est relativement complet. Et puis surtout, on arrive maintenant à la limite matérielle de pouvoir accueillir le nombre de participants.
C'est ça, une notion d'exposants. D'espace.
Voilà, exactement.
Oui. On essaye de ne pas trop cumuler les mêmes professions et les mêmes spécialités.
Oui, bien sûr.
On parle souvent du massage, du bien-être dans le massage. On a des spécialistes du massage de dans différents domaines, mais c'est certain qu'il faut un petit peu ne pas trop avoir une concurrence un petit peu trop active entre les professionnels. Mmh. C'est mieux qu'il y ait une diversité, quoi. C'est un petit peu le but recherché.
Oui. Très bien. On est dans une émission économique, hein, donc on va parler aussi de finances. Comment ce salon est-il financé? Et les thérapeutes qui viennent ils achètent leur stand? Comment ça se passe?
Alors ils sont obligés d'adhérer à l'association Santé Essentielle. Ça, c'est une obligation.
Pour participer au salon.
Et ensuite, ils ont une participation de frais de salon qui est vraiment pas onéreuse du tout, de mémoire. Florence, je crois que c'est...
€30
l'association.
30 euros l'association.
Oui.
Et 80 euros la table.
Ouais. Voilà, 80 euros le salon. On leur fournit évidemment la table, les claustrats de séparation, etc. Et ils décorent leur
propre stand.
Ils se débrouillent eux-mêmes. Et donc, c'est pas onéreux du tout. Et donc, nous, les frais, on a quand même beaucoup de frais quand même parallèles. Hein,
bien sûr. Cette salle, elle vous est prêtée ou vous la louez?
Non, on la loue même dans des conditions d'association pontoisienne, mais on participe quand même à cette location. Mais je pense que notre ville va certainement nous aider dans peu de temps. On a surtout aidé, depuis 3 ans maintenant, 3 ans, on a quand même des sponsors qui nous ont bien aidés sur les affiches, sur les flyers, sur les éléments de com, que ça soit Facebook ou LinkedIn, etc. Enfin, tous ces réseaux. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire, même si on prend vraiment pas cher du tout sur les parutions, c'est une aide quand même substantielle,
bien sûr.
Cumulée, je dirais.
Bien sûr, hein. Bien sûr. Oui. Voilà. L'association aujourd'hui regroupe combien d'adhérents ?
On est 40.
40.
Il y a 40. Non, il y a 40.
Non, il y a 40 exposants, mais il y a un peu plus d'adhérents.
Plus d'adhérents, une cinquantaine peut-être.
Oui, c'est ça.
Une cinquantaine d'adhérents à peu près.
Oui, parce que vous avez besoin aussi de personnes qui participent à l'organisation du salon. Donc,
oui, bien sûr,
les bénévoles doivent aussi.
On a un bureau avec je dirais les pièces maîtresses qui organise le salon et c'est vrai que voilà, moi je les accompagne tant bien que mal, mais je suis pas praticien.
Très bien, apparemment très bien. Plutôt tant bien que mal, hein, je veux dire, on va dire. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous souhaiteriez répondre ?
Je pense que.
Enfin, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir, mais.
Je vais laisser mes collègues présents de parler de leur spécialité et de compléter ce que j'ai dit. Je pense que ça va.
Oui. Mariam Baraka, vous connaissiez ce salon ?
Alors non, je découvre. Pourtant, on est voisins, on est sur Cergy, en face de l'hôtel de ville, et
oui.
je vois déjà les passerelles possibles entre nos deux associations
en
faveur des femmes.
Très bien, merci Mariam Baraka. Je propose qu'on fasse une pause et puis je vais donner la parole ensuite à nos thérapeutes. À tout de suite.
Était sans rêve ou un mauvais film, une italienne. Il était son homme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût! Ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup. J'étais bête, lui pas mal habile, mais malhonnête. Mamma mia, que j'étais bête, mais me voilà libre. Je serai la reine son roi. Oh, oh, je serai la reine son roi. Oh, oh, et peu m'importe toi. Oh, oh, et peu m'importe toi. Oh, oh. Elle s'appelle. Deux ans défilent. Était-elle aveugle ou bien débile? Est-ce que chaque homme est un animal? Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout que c'est moche. Quand tout à coup, Mamma mia, que j'étais. Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile, empile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi qu'on prenne la cocu qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison, pauvre de toi.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
C'est l'économie en direct et nous venons d'écouter Mendissa avec son titre Mamma Mia. Et donc ce matin sur IDFM Radio, nous découvrons combien il peut exister une relation naturelle entre un salon bien-être et la création de la maison Solidarité Femmes du Val d'Oise. Toujours en compagnie de Pierre Monti, président de l'association Santé Essentielle, Florence de Souza, praticienne en neurofeedback dynamique, Martin Nolot, astrologue conseil, ensemble avec nous ce matin pour nous présenter leur salon qui aura lieu les 28 et 29 septembre prochain au Dôme de Pontoise, et Mariam Baraka, fondatrice et directrice de l'association Maison Solidarité Femmes 95, MSF 95. Florence de Souza, alors je suis ravie de vous accueillir. Je vous avoue très humblement que je n'avais jamais entendu parler du neurofeedback dynamique. Donc expliquez-nous cette thérapie.
Oui, alors je suis pas tellement étonnée parce qu'effectivement, quand je dis que je suis praticienne en neurofeedback dynamique, les gens me regardent avec des yeux ronds, donc ne soyez pas humblement
désolée.
Surtout
que le feedback, c'est un terme plutôt économique, donc voilà.
Oui, alors c'est un terme qui peut servir à beaucoup de choses, hein, c'est le retour, voilà. Donc le neurofeedback, en fait, c'est une méthode issue des neurosciences qui a pour but d'entraîner le cerveau à fonctionner dans son meilleur, de manière optimum, en fait.
Oui, oui.
Et ben, c'est vrai qu'on a un cerveau plein d'informations, il nous trompe parfois, on a parfois des réactions qui sont inadaptées ou en tout cas pas conformes à ce qu'elles devraient être par rapport à ce qu'on vit ou par rapport à ce qu'on fait. Mm-hmm. Et ben, là, on peut se dire qu'il y a peut-être une petite erreur qui a été mise quelque part dans le cerveau. Et
une
qu'on
anomalie.
Peut la corriger parce que le cerveau est plastique et donc il apprend comme n'importe quel autre organe par entraînement à fonctionner correctement. Donc en fait ça se base sur l'observation de l'activité électrique cérébrale.
D'accord.
Et c'est il y a un système qui est couplé à des capteurs et donc à une bande musicale, et à chaque fois que les capteurs détectent une turbulence dans l'activité électrique cérébrale, témoin donc d'un petit dysfonctionnement, ça va déclencher une micro-coupure de son à ce moment-là précis.
D'accord.
Et du coup, à force de répétition de ces coupures de son, le cerveau comprend qu'on est en train de lui donner une information et il s'en sert pour se remettre dans ses bons niveaux de fréquence. C'est-à-dire un bon signal sur la bonne fréquence, une bonne longueur de signal, etc. Donc c'est voilà, c'est ça répare un peu via l'électricité, ce qui est indispensable à toute connexion neuronale, qui est donc le petit influx électrique, le petit courant électrique qui passe.
Et alors vous, comment avez-vous toujours exercé cette activité et comment l'avez-vous découverte ?
Alors pas du tout, moi j'étais je me suis reconvertie comme beaucoup de gens d'ailleurs dans le bien-être, en fait, c'est une reconversion après plus de 30 ans, je sais pas, j'ai même pas compté de monde dans l'entreprise.
Où
un jour j'en ai eu un peu marre et je me suis dit en fait j'aimerais faire quelque chose qui ait plus de sens pour moi. Et il se trouve que j'ai croisé sur ma route une amie d'amis qui était praticienne en neurofeedback dans le Val d'Oise à Éragny et qui a fermé son cabinet pour s'installer à Paris. Donc quand elle m'a parlé de ce qu'elle faisait, je me suis dit mais c'est exactement ce que j'aimerais faire. Et du coup j'ai on va dire bénéficié de son départ parce que ça m'aurait un peu embêté de me mettre si près d'elle, mais
oui.
Voilà, et bon, j'ai découvert le neurofeedback comme ça et toute l'efficacité. Donc ça fait 2 ans maintenant que j'ai mon cabinet à Pontoise et je ne regrette pas du
vous
tout ce choix
pas,
de réorientation.
On parle de clients, hein,
alors
ce ne sont
on
pas
parle
des
de
patients.
Clients, absolument, on parle de clients entre 6 mois et 90 ans, enfin pour ceux que j'ai eu moi-même, hein, ça
d'accord.
pourrait être plus jeune et encore plus vieux. Je dirais que ça peut rendre service à toute personne qui sont en grand état d'anxiété, qui ont des problèmes de sommeil, qui sont en dépression, des personnes qui sont au bord du burn-out ou même en plein burn-out, des personnes qui vivent des situations compliquées comme des maladies, des cancers, etc.
Oui, oui, oui.
Et qui voilà, le neurofeedback permet de mettre à distance, en fait, permet de
prendre du recul,
de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit, de remettre les choses à leur juste place. C'est également très très utile et très utilisé d'ailleurs, parce que c'est je vous ai pas dit, mais ça a été créé par des Américains à la base,
oui,
et aujourd'hui
oui.
le logiciel qui est le plus utilisé en France est développé par des Canadiens, et c'est très utilisé du coup en Amérique du Nord, et notamment pour les TDAH, donc pour les personnes souffrant, et particulièrement les enfants, de troubles de l'attention avec hyperactivité. Et ça les permet, ça leur
un
permet
sujet
vraiment.
Oui.
Un très, sujet très, 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 très important.
Enfin, aujourd'hui, oui.
Et, qui est d'actualité, parce qu'il y a énormément d'enfants maintenant qui sont diagnostiqués. Et donc ça leur permet de se concentrer un peu plus longtemps, d'être un peu moins anxieux, d'être un peu moins dans la réaction également, donc d'avoir une meilleure relation sociale avec les parents, avec les camarades,
bien sûr,
avec
bien sûr.
Les maîtresses.
En évitant peut-être le fameux médicament dont on parle souvent pour lutter contre cette...
Alors effectivement, moi je c'est jamais moi qui dirais qu'il faut pas prendre un médicament parce que c'est pas du tout...
Ça peut être une aide quand même. On ne remplace
pas un soin médicamenteux qui serait indispensable pour une personne. Ni un antidépresseur, ni une Ritaline ou autre pour un TDAH. Mais par contre, effectivement, en complément, ça peut aider l'enfant à reprendre confiance en lui, à gérer un peu mieux ses émotions, et effectivement, indépendamment du médicament. Les deux sont pas antinomiques.
Oui, je comprends. Alors votre cabinet s'appelle Happy Brain, cerveau, à Pontoise. Combien de temps faut-il pour que la personne retrouve un mieux-être? Enfin, quand elle, à partir du moment où elle vient vous voir, comment procédez-vous? Vous faites un diagnostic?
Alors effectivement, on fait une séance. On peut faire une séance de bilan où on va vraiment. Bien sûr, c'est aussi un moment d'échange où on va comprendre pourquoi la personne vient. C'est vrai que moi, j'ai pour habitude de dire, mais je pense que je suis pas la seule dans le bien-être, que déjà une personne qui vient vous voir, elle est consciente qu'elle a un souci et elle commence à se prendre en charge. Donc, je dirais qu'elle a déjà fait une bonne partie du chemin. Voilà. Et puis alors après, en fonction de ce qui l'amène, il y a des choses qui vont être plus ou moins longues. C'est un peu comme si vous alliez voir un psychologue parce que vous avez un problème et que vous lui demandez d'entrée de jeu, je vais venir vous voir combien de fois.
En moyenne,
je dirais que très fréquemment, une dizaine de séances suffit à résoudre 90% des problèmes.
Okay.
Voilà.
Est-ce qu'on peut connaître le prix d'une séance?
Bien sûr. Alors une séance. Alors j'ai plusieurs tarifs. J'ai une séance découverte à 35 €, parce que je me dis ça n'engage à rien. Comme les gens ne connaissent pas, il faut aussi qu'ils viennent écouter de quoi il s'agit et voir un peu le cabinet et vivre une séance. Ensuite, une séance à l'unité est à 55 € et le pack de 10 séances est à 500 €.
D'accord.
Donc 50 € la séance.
Très bien.
Ensuite, je fais des abonnements parce qu'il y a des gens qui sont, par exemple, des TDAH. Ils vont peut-être avoir besoin d'une séance par mois sur le long cours, donc ça va pas être un traitement ponctuel. Donc ça dépend vraiment pourquoi on vient voir en fait.
Et donc vous serez présente bien sûr à ce salon qui va avoir lieu les 28 et 29 au Dôme de Pontoise.
Absolument.
C'est votre première participation?
Non, ça sera la deuxième.
Deuxième?
Ce sera la deuxième. Enfin, c'est pas la deuxième participation à un salon, mais en tout cas, celui-là, c'est la deuxième.
Oui.
Et je dois dire que l'année dernière, comme j'avais pris le choix de proposer des séances une séance découverte sur le salon, j'ai été étonnée, pas tellement finalement, pas tant que ça, de voir que mon fauteuil n'a pas désempli pendant les deux jours du salon, donc ça a eu du succès.
Est-ce que vous avez transformé les essais
absolument.
Par rapport aux personnes?
Faire un salon, c'est très bien, c'est bien pour soi, parce que ça nous renforce dans notre discours, notre conviction, de savoir qu'on fait du bien, de rencontrer des gens, d'en parler, et puis ça fait du bien, surtout quand on fait du neurofeedback dynamique qui est très peu connu. Ça permet de vulgariser un peu le mot et de faire passer l'information. Donc c'est jamais inutile, tout à fait.
Ce neurofeedback, pardon Pierre?
Non, je voulais dire que ça lui a tellement plu à Florence que maintenant elle fait partie du bureau de santé essentielle et elle participe à gérer les comptes avec
Blandine Dubois, donc elle est
trésorière adjointe, donc ça prouve qu'elle s'est...
Elle s'est bien investie. ce mot neurofeedback, c'est un nom déposé ou
Neurofeedback dynamique, je pense pas que ce soit déposé. Par contre, le l'outil avec lequel je travaille, donc le logiciel en fait s'appelle Neurooptimal.
D'accord.
Et ça c'est déposé.
Ça c'est déposé, oui.
Tout à fait.
Donc Vous serez sur ce salon parce que, bien sûr, vos besoins, c'est de faire connaître votre cabinet et puis peut-être cette thérapie.
Absolument.
Sur le Val d'Oise, vous êtes plusieurs à pratiquer cette thérapie?
Alors, on est plusieurs.
Ah oui, quand même.
Mais je crois qu'il y a eu beaucoup. C'est pas très clair, en fait. Je sais qu'il y a une personne qui s'était installée à Pontoise, mais qui n'a finalement jamais commencé. Donc, et ça, c'était il y a pratiquement en même temps, enfin 6 mois après que je me sois moi-même installée. Non, je crois qu'il n'y a pas grand monde
qui pratique le neurofeedback. Pour le moment, vous gérez.
Enfin, le Val d'Oise, c'est grand, donc je ne voudrais pas dire de bêtises.
Vrai,
je voudrais pas que.
Non, mais.
Ceux qui pratiquent.
Non, c'était juste par rapport à l'engouement vis-à-vis de cette thérapie que je vous posais la question.
Non, alors il y en a beaucoup en France quand même. On est de plus en plus nombreux à être formés à cette méthode. Donc, je pense que petit à petit, ça va finir par voir le jour grâce à des gens comme moi ou comme des salons qui se passent un peu partout en France et qui présentent cette méthode, mais pour l'instant c'est assez confidentiel effectivement.
Bon, Mariam Baraka, je vous repose la même question. Est-ce que vous connaissiez cette thérapie feedback, neurofeedback dynamique?
J'en avais entendu parler, oui, effectivement. J'en avais entendu parler parce que je travaille dans une association qui s'appelait Du Côté des Femmes, qui était implantée sur le Val d'Oise depuis près de 40 ans, et on œuvre effectivement pour les femmes et le paramédical, en tout cas toutes ces thérapies parallèles sont aujourd'hui pour nous des leviers essentiels de remise en santé des femmes.
D'accord,
voilà.
D'accord.
Donc, et parmi elles, effectivement, celle que pratique madame.
Très bien, merci Mariam Baraka. Florence de Souza, vous êtes également conseillère en fleurs de Bac.
Alors, pas encore tout à fait.
Pas encore. Bon, vous êtes en formation. Rappelez-nous quand même ce que sont les fleurs de Bac.
Alors, j'attaque le deuxième module seulement, donc je ne suis pas encore au bout de ma... Il y en a trois. Alors, les fleurs de Bac, c'est en fait des fleurs qui ont été découvertes par un médecin au siècle dernier, en Angleterre, le docteur Bac, et qui permet, en combinaison ou seul, de rééquilibrer les émotions. Donc il y a 38 fleurs, il a découvert 38 fleurs tout au long de sa vie.
Et c'est une sorte d'homéopathie un petit peu? Non,
alors,
pas tout à fait.
Pas vraiment de l'homéopathie.
Non.
C'est vraiment, je dirais, l'ADN de la plante qu'on va venir ingérer et qui va nous permettre de rééquilibrer les émotions, parce que chaque plante correspond à un état qui est proche de nos états à nous. En fait, c'est une ressemblance entre la plante et l'homme. Et en prenant ces plantes, on rééquilibre les émotions qui sont celles de la plante via son ADN. Donc, c'est des toutes petites doses. Et en fait, la réflexion qu'a faite le docteur Bac, c'est de se dire, il était généraliste, hein, il était médecin, il était botaniste, il était épidémiologiste, il était plein de choses. Et puis il s'est dit, c'est curieux, j'ai un traitement médicamenteux qui fonctionne sur un malade qui a une maladie, et sur la même maladie sur un autre malade, ça ne fonctionne pas. Donc il a décidé, en fait, par réflexion, par observation de ses patients, qu'il fallait peut-être d'abord traiter l'état émotionnel, qui est en fait une sorte de prévention, parce que c'est vrai que quand on va bien, on risque moins de développer une maladie.
Oui,
on sait bien
connu,
que quand on est épuisé, est beaucoup plus ouvert à attraper une grippe, peut-être un Covid, j'en sais rien,
quand
on est extrêmement stressé,
un choc émotionnel, on peut développer un cancer.
Exactement. Ouais. Donc en fait, l'état émotionnel, c'est la première chose qui devrait être soignée, regardée, prise en compte, bichonnée, si je puis dire.
Ouais.
Donc voilà, et du coup, de fil en aiguille, comme il était botaniste, comme je vous l'ai dit également, parce qu'il aimait énormément les plantes, il habitait le Kent, si je me souviens bien, en Angleterre, ou enfin une petite région d'Angleterre charmante où il y a plein de fleurs sauvage, et donc il a observé les plantes, et par ses observations, ses tests, c'est assez passionnant.
Ah oui,
sa vie.
Oui, d'accord.
Et donc il a fini par découvrir ces 38 plantes qui peuvent correspondre à des états émotionnels.
Une sorte de sérendipité, c'est-à-dire il cherchait quelque chose et il a trouvé
autre
chose. Ouais.
Exactement,
ouais,
tout à fait.
En tout cas, Florence, vous en parlez très très bien, vous parlez très bien de votre activité,
merci
à vous. Et donc, ces fleurs de Bac viennent compléter vos séances.
Oui, alors pourquoi j'ai eu cette idée? En fait, je vois pas mal de personnes qui sont souvent des accompagnants, des gens qui viennent me voir. Par exemple, des parents à bout de force parce qu'ils ont un enfant qui est vraiment difficile au quotidien. Je me dis, en fait, ces personnes ont aussi besoin d'aide. Donc, je pourrais leur proposer aussi du neurofeedback. Mais... c'est bien d'avoir quelque chose d'adapté. En fait, je m'aperçois depuis que je suis dans ce métier, en discutant avec d'autres praticiens, on est tous un peu pareils. C'est-à-dire que quand on commence à mettre le doigt dedans, on a envie d'aller plus loin. En fait, on a envie d'aider tout le monde. On a envie d'avoir une boîte à outils qui soit infinie. Oui, donc on est tous plus ou moins toujours un peu en formation. Donc évidemment, après m'être formée toute seule de mon côté, en écoutant beaucoup de choses, en lisant beaucoup de livres, etc., sur toutes les troubles que je suis amenée à rencontrer dans mon cabinet, je me suis dit après, genre par exemple l'autisme, toutes les dyspraxies, dyslexie, enfin tous les troubles 10, les TSA, j'en ai parlé, enfin tout les dépressions, les burn-out. Bon, quand on a travaillé un petit peu sur tout ça et qu'on se dit mais comment est-ce qu'on pourrait les aider, le neurofeedback parfois, comme toutes les techniques d'ailleurs de mes consoeurs et mes confrères, ils ne diront pas le contraire, ça marche pour nous, ça marche pour quelqu'un, ça ne marche pas forcément pour quelqu'un d'autre.
C'est ça.
Donc effectivement, on aime bien avoir un petit outil supplémentaire. Donc pour les accompagnants, par exemple, je peux proposer une petite fiole de fleurs de Bac, une petite consultation. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas encore conseillère. Attention,
Faut
être estampillé par la maison fleurs de Bac en Angleterre. Donc c'est quand même formation assez sérieuse.
Et vous serez référencé quand?
Écoutez, fin d'année, j'aurai fini ma deuxième session et je pense que
au cours de l'année 2025.
Prochain,
Très bien. Bah, écoutez, c'est tout. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment, Florence
et
de Chouza.
Je voudrais rajouter quelque chose parce que je rebondis sur Santé Essentielle.
Oui.
Je disais une boîte à outils. Quelquefois, ce qui fonctionne sur un client peut ne pas fonctionner sur un autre. Il y a aussi une boîte à outils extraordinaire qui est donc l'association Santé Essentielle, puisque comme on se connaît, qu'on se rencontre régulièrement pour justement parler de nos cas précis, pour parler de nos activités, on se fait des recommandations en fait. Et quand je n'y arrive pas, parce que ça arrive parfois, eh bien je peux dire, je vous conseille d'aller voir une telle ou un tel qui pratique telle chose et qui pourra peut-être vous aider.
C'est aussi la synergie qui est très importante.
Ouais. Comme c'est la mode de tous les réseaux qu'on pratique
professionnels
maintenant, les groupements BNI et compagnie et tous ces. Bah là, on a un petit réseau aussi, un réseau santé.
Ouais.
Voilà.
Merci Pierre Monti de cette précision. Pour vous trouver sur le salon, Florence de Sousa.
Alors il y a mon site internet où je vais pas tarder à mettre l'information. Ma page Facebook où je vais également où l'information y est déjà. Et puis sinon Santé Essentielle Pontoise, vous allez trouver toutes les informations, je pense, assez
très
facilement
bien.
Un peu partout. Mais bon, 28 et 29 septembre.
Absolument. Mais on le redira d'ici la fin de l'émission.
Voilà.
Merci infiniment. Je propose qu'on fasse une nouvelle pause et on se retrouve juste après.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir de pouvoir accueillir Pierre Monti, président de l'association Santé Essentielle, pardon, Florence de Souza, praticienne en neurofeedback dynamique, Martin Nolot, astrologue, et Mariam Baraka, fondatrice de la maison Solidarité Femmes 95, MSF 95. Et on enchaîne avec vous, Martin Nolot. Donc vous êtes astrologue conseil.
C'est ça.
Vous m'avez précisé dans votre petit questionnaire que vous êtes un prof de maths à la retraite.
Voilà, je viens d'être en retraite en novembre 2023 et j'en profite pour arrêter un peu les maths et puis me lancer là-dedans. Encore que l'astrologie, je la pratique depuis des
années.
C'est ça,
j'imagine
années,
que...
C'est pas,
c'est
je ne me lance question. Pas comme ça.
Hein. C'est ça, je me suis douté que vous aviez cet intérêt pour l'astrologie depuis longtemps. Alors aujourd'hui, vous êtes diplômé de l'IEA, Institut d'études astrologiques. C'est un diplôme que vous aviez depuis longtemps ou que vous venez de passer?
C'est-à-dire que j'ai commencé très jeune à lire, à étudier, à faire des expériences, etc. Et puis... Après, il a fallu que je passe par cette formation pour avoir, on va dire, une étiquette, dire que je sors pas de rien.
Oui.
Mais cette formation, bon, elle m'a appris des choses, mais pas tant que ça. Ce qui a compté surtout, c'est mon expérience personnelle.
Alors, comment l'avez-vous découverte, vous, cette astrologie?
Alors, c'est une petite histoire. Hein. Ça a commencé très tôt, vu que quand j'étais à l'école primaire, j'étais un enfant qui parlait pas beaucoup. Très bon à l'école, mais qui parlait pas beaucoup.
Timide et renfermé.
C'est-à-dire que, renfermé. Les instits venaient souvent voir ma mère en disant « Ah, il lève jamais le doigt, il parle jamais ». Et alors, il se trouve qu'en astrologie, je suis du signe des Gémeaux. Alors,
d'accord.
Le signe des Gémeaux, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui a toujours quelque chose à dire. Bon, alors... Il se trouve
vous
aussi
étiez
que...
en train de faire mentir
voilà,
le signe.
Ça, en apparence. Mais voilà, je suis ascendant cancer. Alors, quelle est la différence entre le signe de naissance et l'ascendant? L'ascendant, c'est un petit peu l'image qu'on présente. Et cancer, c'est un signe très intériorisé, qui ne parle pas, qui est toujours en retrait, etc. Et donc, ma mère m'avait acheté un petit livret, « Votre enfant est du signe des Gémeaux ». Et alors, j'ai lu cette brochure avec beaucoup d'intérêt et j'ai observé...
Vous aviez quel âge?
Je devais avoir 10-11 ans.
10 ans.
Voilà. Et alors, j'ai lu avec attention ce que c'était qu'un enfant des signes des Gémeaux et j'ai dit « Bah, c'est moi ». Alors que personne me trouvais bavard ou quoi que ce soit, mais je lui dis c'est moi
ça. Au fond de vous-même, vous vous ressentiez comme ça?
Au fond de moi-même, je me ressentais parfaitement comme ça et je me suis dit je vais leur montrer qui je suis. Voilà. Et alors à partir de là, ça a été ça mon point de départ. À partir de là, j'ai essayé de me connaître moi-même, j'ai essayé de regarder mon thème, le thème des gens qui m'entouraient, et puis de fil en aiguille, j'ai jamais arrêté d'en faire. Et surtout, quelque chose d'important, j'ai fait de l'astrologie parce que j'ai constaté que ça fonctionnait. J'ai une formation scientifique, je n'aurais pas fait quelque chose si j'avais pas constaté que ça marchait pas.
Oui, mais quand vous dites que ça marche, expliquez-nous.
Alors, que ça marche. C'est-à-dire que quand j'observe mon thème, les choses qu'il y a d'inscrites sur mon thème, je les ai identifiées intérieurement et j'ai constaté que ça correspondait à des choses réelles de ma personnalité. Voilà. Par exemple, alors pour vous donner un exemple, les Gémeaux. Une fois que j'ai eu levé ces barrières qui m'empêchaient de parler, je me suis mis à être intarissable. J'ai été prof, j'ai passé mon temps à parler.
D'accord.
Bon, dans mon thème, il y a des planètes en Bélier. Hein, le Bélier, c'est un signe qui fonce.
Qui fonce, oui.
Alors, Les gens me voient habituellement comme quelqu'un de très calme, très réservé, très posé. Mais les gens qui vivent
avec vous,
avec moi de manière proche, constatent que j'arrête pas. Je suis un tourbillon d'énergie et je suis sans arrêt une locomotive. Bon, bah ça, je l'invente pas. C'est quelque chose qui est dans ma nature et c'est pas parce que je l'ai regardé dans le thème que ça m'a incité à le faire. Je suis comme ça dès le départ. Voilà. C'est un petit peu le ces constatations-là qui m'ont... Enfin, c'était indéniable.
C'est ça. Voilà. Donc, pour vous, l'astrologie, c'est un véritable outil de développement personnel. Et au fond, ce que vous voulez nous dire, c'est que à partir du moment où on constate ses propres qualités, ça va donner confiance en soi, c'est ça ?
C'est ça. C'est-à-dire que on se connaît.
Oui.
On se connaît mieux. C'est un petit peu comme quelqu'un qui conduirait une voiture et qui sait pas la conduire au départ et puis qui découvre ce que c'est, comment faire, comment la conduire, et ça permet de mener sa vie d'une façon épanouissante et de connaître aussi les autres. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais prof de maths. Connaître le signe des élèves, alors on se rend compte les élèves sont pas tous pareils. Il y en a qui sont intériorisés, il y en a qui se mettent en avant, il y en a qui sont très... qui réfléchissent beaucoup. Et alors, le problème dans l'éducation nationale, c'est qu'on prend tout le monde... on loge tout le monde enseigne.
Oui.
Il est très important de savoir parler de manière différenciée aux uns aux autres. Et pour ça, l'astrologie, c'est extrêmement intéressant. On repère, d'après leur thème, les élèves à qui il faut pas les interroger parce qu'ils voudront pas répondre.
Oui.
Au contraire, ceux qui vont de l'avant, les signes de feu, ils y vont, on les valorise. Mais on ne reproche pas à ceux qui n'ont pas envie de se mettre en avant, de ne pas se mettre en avant.
Mmh.
Or, dans l'éducation nationale, le message qu'on fait passer,
c'est
socialisons.
C'est un standard. Ouais.
Voilà, standard. Si l'élève est en retrait, encouragez-le à y aller, alors qu'il veut pas du tout. Mmh. Des choses comme ça, quoi.
Donc vous, à chaque début d'année, puisque vous aviez la date de naissance de vos élèves, vous saviez tout de suite dans quel signe.
Voilà, ça permet d'avancer.
Vous en avez tenu compte.
Exactement. Ouais. Alors,
est-ce que vous en parliez avec vos élèves de cette...
Avec certains, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus ou moins réticents. Alors je vous donne un exemple, j'ai fait de l'éducation spécialisée en SECPA. Et alors j'avais repéré une jeune qui était bélier ascendant Lion, avec beaucoup de planètes en signe de feu, ce qui est un révélateur de... énormément d'énergie à dépenser. Et alors j'avais constaté que cette fille était très intériorisée, elle bougeait pas. En revanche, c'était une spécialiste de la course. Quand elle courait, alors là, on l'arrêtait plus. Alors elle, par un hasard, j'ai découvert qu'elle s'intéressait à l'astrologie. J'ai pu discuter avec elle. Il s'est avéré qu'elle me disait moi je bouge sans arrêt, j'ai envie d'exploser mais je peux pas. Et il s'est avéré que son père était dépressif, elle avait un contexte familial difficile qui l'empêchait de sortir
s'exprimer.
D'elle-même.
Mm-hmm.
Mais avec cette jeune, il fallait lui donner des occasions d'investir son énergie.
C'est ça.
Parce que sinon, elle était complètement...
Donc vous, quand vos clients viennent vous voir, parce que quelle est la frontière entre astrologie et voyance ?
Voilà. Alors... c'est pas tout à fait la même chose. La voyance, alors c'est très varié la voyance, mais en gros n'a pas trop besoin de support. C'est-à-dire que la personne, la voyante ou le voyant, a des choses qui lui viennent et les dit.
Comme des flashs, un
petit peu. Des flashs, c'est ça. Alors que l'astrologie a besoin de la carte du ciel pour pouvoir dire des choses. Mais alors, moi, enfin, je parle de moi, qu'est-ce qui se passe ? J'ai une personne qui vient me voir, j'ai son thème, alors je l'étudie un petit peu, mais pas tant que ça. Et lorsque la personne est en face de moi, j'ai des flashs qui me viennent, qui s'appuient sur le thème et qui me reviennent. Et alors, là, ça donne des choses extrêmement intéressante, mais j'ai besoin de ce support pour avoir un espèce de tremplin et de capter les ondes de la personne.
Très bien. Et donc, vous encouragez en fonction de du signe de la personne à avoir telle ou telle activité. Enfin.
Voilà, c'est-à-dire que en fonction du thème de la personne, alors le thème, c'est-à-dire la position des planètes à la naissance, donne des informations sur les potentialités de la personne. Et alors, j'encourage la personne à suivre ses potentialités.
Bien sûr.
Par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils veulent changer d'orientation professionnelle. Oui. Alors, je leur dis, je leur donne des informations. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que ça correspond à leur nature profonde ou non? La plupart du temps, ça correspond.
Ça se révèle exact.
Ça se révèle exact. Ça correspond à leur nature profonde. Et le fait de leur dire, ça les booste énormément. C'est comme si ils avaient l'impression que c'est leur destin. Alors,
c'est ça. Vous avez au fond cette pratique vous donne une, enfin le, un peu comme un psychologue qui
voilà,
va.
C'est un genre de coaching.
C'est ça.
Voilà.
Ouais. C'est intéressant. Voilà. Donc, vous êtes installé à quel endroit, Martin?
Donc, à Valmondois.
Oui.
Alors, en fait, je fais deux types d'activités. Je fais des consultations. Alors, on peut venir me voir pour parler de son thème natal. On peut aussi me voir pour parler de son thème annuel. C'est-à-dire, dans une année qui part de la date anniversaire à l'anniversaire suivant, c'est un petit peu une météo astrale. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les forces en présence? Comment mieux les gérer, ça c'est les consultations, mais je fais aussi de la formation, c'est-à-dire apprendre aux gens à décrypter un thème natal, et ça je le fais dans un local qui dépend de l'association psycho, alors je me rappelle plus de son nom, mais en tout cas elle est à Parme.
Voilà. Très bien, très bien. Et donc vous allez intervenir au Salon Bien-être de Pontoise les 28 et 29 septembre. Vous avez beaucoup de clients quand même aujourd'hui?
J'en ai un certain nombre, mais pas autant que je pourrais, parce que je viens d'arrêter, il me faut un certain temps pour me faire connaître, mais j'ai quand même un parc de clients fidèles qui continuent à me voir d'année en année. Parce que en fait, quand j'étais prof de maths, je faisais de l'astrologie en parallèle, mais je pouvais pas m'y investir autant que je voulais. Mais j'ai quand même un certain nombre de clients, quoi.
Est-ce qu'on peut connaître le prix d'une séance?
Alors, une consultation, c'est 60 euros.
D'accord.
Voilà.
Ça dure combien de temps?
Ça dure, alors, selon la personne, ça dure entre 1h30 et 2h.
Ah oui.
Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, il y a en général beaucoup de choses à dire. Et puis, on va dire dans 99% des cas, les gens me disent mais comment vous savez tout ça? C'est incroyable.
Ils sont bluffés.
Ah oui, ils sont bluffés. Voilà.
Merci infiniment, Martin, pour cette approche claire et authentique. On a bien compris que vous vous appuyez sur le côté scientifique de l'astrologie.
Voilà, une dernière chose.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui me disent « Quoi ? Toi qui es un esprit scientifique, comment prof de maths ?» Et puis j'ai fait des études d'informatique, d'ingénieur, etc. « Comment tu peux t'intéresser à cette discipline, on va dire... pas très crédible,
Oui, parce que c'est souvent associé au charlatanisme, par rapport à...
Associé.
Alors qu'en réalité, vous nous démontrez le contraire.
Voilà, et en plus, l'astrologie, elle sort pas... elle n'est pas née du jour au lendemain.
Non, c'est ça, ça remonte à la nuit des temps,
bien sûr. Ça remonte à la nuit des temps, et des grands scientifiques
absolument.
Comme Newton s'y sont intéressés.
Oui,
c'est pas n'importe quoi. Voilà.
Nous, chez IDFM Radio, nous avons une spécialiste de l'astrologie, Angélique, qui intervient tous les matins, donc qui donne
l'horoscope.
L'horoscope, voilà, pendant quelques minutes. Merci infiniment. Francky, je propose qu'on fasse une courte pause pour pouvoir donner la parole à Mariam Baraka. Merci.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est toujours l'économie en direct et ce matin, eh bien, nous avons des, comme toujours, hein, des invités passionnants qui nous font part de leur activité. Alors donc, ces invités, c'est Pierre Monti, président de l'association Santé Essentielle, Florence de Souza, praticienne en neurofeedback dynamique, Martin Nolot, astrologue conseil, avec nous parce qu'ils sont, ils participeront au salon les 28 et 29 septembre prochains au Dôme de Pontoise, au salon Santé Essentielle, et Mariam Baraka, fondatrice et directrice de l'association Maison Solidarité Femmes 95, MSF 95. Je précise à chaque fois MSF parce que je trouve que c'est pas rien d'avoir comme ça un acronyme, hein, d'une entité. Alors après avoir décliné donc une partie des formes de bien-être pour soi à travers des activités très variées, on va aborder une autre sorte de bien-être, mieux-être, plus social et solidaire. Et c'est avec vous, Mariam Baraka, qu'on aborde ce sujet. Qu'est-ce qui vous a poussé, Mariam, à créer la Maison Solidarité Femmes du Val d'Oise ?
Alors, tout d'abord, avant de répondre à cette question, je tenais, Jacqueline, à vous remercier profondément de mettre en fait en lien le bien-être des femmes et cette question sociétale qui est un véritable fléau, c'est-à-dire les violences faites aux femmes.
Oui, oui.
Souvent, on regarde les violences sous un angle judiciaire, pénal, éducatif, social ou administratif, et on le regarde peu d'un point de vue bien-être. Et pourtant, les violences sont d'abord avant tout un schéma systémique,
oui, oui,
où le bien-être est mis à mal et souvent pour trouver la solution, il y a une véritable problématique complexe. Donc, merci de mettre en lumière ça. Et puis, je m'aperçois finalement avec les invités d'aujourd'hui que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, dont je salue aujourd'hui leur activité, c'est que finalement, on est tous tournés vers l'autre, vers autrui, dans cette profonde conscience qu'aujourd'hui, vivre dans notre société, c'est avant vivre ensemble et vivre bien. Et donc on est ça je le salue et je trouve que c'est bien parce que finalement on est tous complémentaires dans nos disciplines et nos activités, mais finalement il y a un fil conducteur qui est celui d'être tourné vers l'autre. Donc merci
c'est ça,
de permettre
c'est l'altérité,
cette
merci
de permettre cette transversalité, voilà, et cette complémentarité, comme quoi les choses ne sont pas antinomiques, pour reprendre le terme de Florence. Alors moi, ce qui m'a poussé à créer MSF, c'est une reconversion professionnelle. Donc vous voyez comme quoi les chemins finalement se recroisent et il y a des similitudes dans nos parcours de vie. D'abord, c'est mes valeurs humaines, profondément tournées vers l'autre, clairement humanistes. C'est une profonde révolte contre les injustices, et plus particulièrement contre les injustices et les violences faites aux femmes et aux personnes les plus vulnérables. J'ai été frappée depuis près de 24 ans par l'handicap via ma fille à la naissance, et j'ai compris ô combien cette société, quand on n'était pas normé, pour reprendre la problématique de l'éducation nationale, quand on rentrait pas dans un moule, qu'on n'était pas standardisé, combien c'était difficile de trouver sa place. Et donc, c'est avec tout ce parcours de vie, à l'aube de mes 50 ans aujourd'hui, parce que je suis de signe scorpion, ascendant capricorne, voilà, que, en fait, je fais de mon combat une forme de résilience pour notre société, pour
Alors,
qu'on ait...
Alors, petite parenthèse, c'est très intense, hein, scorpion, capricorne, c'est des signes qui vont jusqu'au bout de leur démarche et qu'on n'arrête pas.
Eh bien, je crois que cette ténacité, effectivement, elle est aujourd'hui le fruit de la création d'MSF, puisque de la fermeture de sa grande sœur du côté des femmes par voie judiciaire le 26 novembre dernier, parce que le Covid est passé par là et qu'effectivement une dette colossale a été effectivement engendrée, puisque on sait ô combien le confinement a fait du mal aux familles, et notamment aux femmes et aux enfants, dans le cadre des violences faites au sein des familles.
J'avais fait une émission, il y avait une augmentation de 400% des violences intrafamiliales pendant le Covid
sur ce temps-là.
Eh bien, incroyable.
Aujourd'hui, on en paye les conséquences, c'est que du côté des femmes n'a pas pu effectivement survivre à cette pandémie. Et en fait, c'est dans cette forme de deuil, que dans cette fermeture que j'ai accompagnée sur les 6 derniers mois de l'année 2023, que j'ai souhaité mettre au service ma ténacité de notre territoire et créer cette nouvelle association qui continuera, j'espère, en tout cas je lui souhaite longue vie. Elle a ouvert ses portes le 26 août dernier et je lui souhaite vraiment longue vie.
Donc un défi incroyable, puisque vous avez fermé les portes il y a moins d'un an et vous avez déjà ouvert la Maison Solidarité Femmes.
Neuf mois jour pour jour.
Vous avez dû déployer une énergie folle.
Neuf mois jour
neuf
pour
mois.
Jour. Nous
oui,
avons
comme
fermé le 26 novembre dernier
et
MSF 95 a vu le jour le 26 août. C'est une véritable naissance. J'étais une bénévole vraiment tenace, accompagnée de mon conseil d'administration qui sont des gens aussi engagés sur
cette question des femmes et de la protection des femmes. Et oui, ça n'a pas été de tout repos, effectivement, ces neuf derniers mois. Mais je pense que la cause en vaut la peine, très clairement. C'est sans regret, c'est vraiment sans regret.
C'est indéniable. Alors, quelle est la mission principale de la Maison Solidarité Femmes du Val d'Oise?
Alors, sa mission première, c'est de d'œuvrer contre les violences qui sont faites aux femmes et aux enfants. Et c'est de pouvoir permettre à ces femmes de retrouver leur pouvoir d'agir. Voilà, de pouvoir à travers des leviers pédagogiques leur apporter une autonomisation dans leur vie de tous les jours. Voilà.
Oui. Et
avec
comment...
un axe tout particulièrement, je tiens à le préciser, aux femmes en situation de handicap. Donc pour le coup, c'est une vraie nouveauté sur notre territoire.
Ah oui, ça n'existait pas dans ce domaine. Il n'y avait pas de.
En tout cas, pas un bureau reconnu en tant que tel, sécure, pour pouvoir justement les accueillir, les soutenir et les accompagner.
Alors, quelles sont les principales activités et puis services que vous proposez à ces femmes? Et puis, comment sont-elles, ces femmes viennent à vous? C'est vous qui allez les chercher? Comment est-ce articulé?
Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a deux grands dispositifs qu'il faut identifier chez MSF 95. Le premier, qui est le réseau d'accompagnement protégé, qui a pour mission d'accompagner, d'accueillir et de soutenir les femmes en situation de violence avec leur double peine d'être aussi également en situation d'handicap. Bien entendu avec leurs enfants, puisque je rappelle juste pour la petite culture de nos auditeurs et auditrices, c'est que depuis 2014, le traité d'Istanbul a ratifié le fait que les enfants aujourd'hui sont reconnus également co-victimes de situations de violence intrafamiliale. Donc en fait, on leur doit assistance, on leur doit accompagnement et on leur doit soins au même titre que leur mère. Donc ça, c'est important de le signaler. Donc voilà, le réseau d'accompagnement est un lieu d'écoute, d'accueil et d'accompagnement sécure avec une équipe dédiée à ce dispositif, pluridisciplinaire dans ses compétences, en transversalité où la santé, le bien-être seront pour moi vraiment au cœur de l'accompagnement, puisqu'une femme debout est avant tout une femme qui a une estime d'elle-même, qui est bien dans ses baskets et qui est en bonne santé. Donc les deux ne sont absolument pas antinomiques.
Ils ne vont pas
sans
l'autre,
L'un ne va pas sans l'autre. Il faut savoir que les violences ont un impact sur la santé psychique de manière extrêmement grave. On a parlé d'anxiété, de dépression, de burn-out, mais également sur la santé physique avec des maladies chroniques qui peuvent s'installer comme l'hypertension, des accidents cardiovasculaires silencieux, etc., des troubles neurologiques, mais également sur l'estime d'elle-même, puisqu'une femme qui est sous emprise et sous domination et qui vit des violence au quotidien, forcément elle perd son estime d'elle-même et elle perd sa capacité d'agir, voilà, son pouvoir d'agir. Donc vous voyez comme quoi les violences et le bien-être des femmes, on ne peut pas, si vous voulez, déconstruire des violences et permettre une reconstruction résiliente sans passer par des professionnels autour de la santé et autour du bien-être. Les deux sont vraiment totalement associés.
Donc, alors Mariam, moi je vous suivais déjà sur les réseaux sociaux, mais on s'est mieux rencontrés lors de la soirée initiative où vous avez reçu une sorte de trophée par rapport à pour cette création. Et j'ai retenu que vous aviez vous créez des métiers. On parle de métiers genrés, donc je vous laisse nous expliquer.
Alors ça, c'est le deuxième pilier de l'association. Oui. L'autonomisation passe par l'emploi. Il n'y a pas chose plus noble que de gagner sa vie à travers un emploi et donc remettre en selle les femmes de manière, je dirais, à la fois digne et sécure. On le fait à travers le chantier d'insertion qui s'appelle les embellisseuses d'avenir. Et ces embellisseuses d'avenir sont des femmes qui ont effectivement eu un parcours de vie éprouvé, fracturé, pas forcément que des violences. Ça peut être aussi la perte d'un conjoint, ça peut être un deuil, en tout cas un choc émotionnel. Et l'objectif dans le chantier d'insertion, c'est d'utiliser le bâtiment, la rénovation de seconde œuvre, donc l'embellissement des espaces, comme levier pédagogique d'une insertion socio-professionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui est très genré et l'objectif est justement de déconstruire avec elle ce qu'on appelle les stéréotypes du genre. Donc c'est-à-dire de dire dans notre société aujourd'hui au 21e siècle qu'il y a des métiers faits pour des femmes et des métiers faits pour des hommes. Alors c'est vrai que ça paraît absurde, mais finalement ça ne l'est pas tant que ça. Et le BTP en fait est un métier effectivement très masculin où il y a peu de femmes qui l'exercent, même au niveau académique. Les orientations scolaires
Même s'il y en a, on va dire, de plus en plus,
il n'y en a pas encore suffisamment. Donc l'idée, si vous voulez, c'est à travers ce chantier, c'est d'abord de leur permettre d'apprendre un métier qui est le métier de peintre décoratrice. Ça peut toujours servir personnellement pour les espaces personnels, mais aussi d'ouvrir les horizons du possible et de pouvoir plus largement aller découvrir des secteurs d'activité sur lesquels elle n'avait pas du tout ou connaissance ou qu'elle n'osait pas y aller. Moi, ma plus belle victoire, ça a été une femme qui est arrivée en me disant, vous savez, j'ai besoin de rentrer chez vous parce que j'ai besoin d'avoir un emploi et j'ai besoin de me remettre en selle professionnellement. Mais par contre, je ne dirai pas à ma famille ce que je fais. Parce que j'ai honte de dire que je travaille dans le bâtiment.
D'accord.
6 mois après avoir travaillé, alors moi j'ai trouvé ça, je me suis dit, on a tout à déconstruire, reconstruire avec cette jeune femme. Et finalement, elle est arrivée, elle avait une trentaine d'années, c'était une maman solo avec 2 enfants. Et elle arrive 6 mois après en me montrant une vidéo d'elle en train de d'enduire un mur et de réparer un mur et de le peindre. Et elle me dit, je suis très fière aujourd'hui de vous le dire que cette photo, je l'ai envoyée à mes parents et à toute ma famille parce que aujourd'hui, je sais que c'est un métier et je suis tellement fière de l'exercer.
C'est ça. Voilà, donc le pari était gagné.
Le pari était gagné, voilà. Donc, il y a eu tout un cheminement de conscientisation. Et effectivement, on permet aussi des périodes de mise en situation professionnelle. Donc, des fameuses PMSP, qui est un acronyme un peu dans le monde de l'emploi. Mais en fait, c'est une immersion dans une société à la découverte d'un métier. Et ça leur permet, en fait, de lever toutes les appréhensions et de répondre à leurs questions et de pouvoir se dire, OK, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire.
Donc aujourd'hui, la Maison Solidarité Femmes, c'est une communauté, on peut le dire.
C'est une communauté, oui, qui œuvre pour les femmes.
Et
hommes et femmes. Bien sûr. Bienvenue.
Oui, complètement. Alors, vous nous disiez, qu'il y avait 2 façons d'appréhender faire venir les femmes ou aller les chercher. Peut-être nous donner d'autres détails sur cet aspect.
Alors, effectivement, il y a 2 façons d'aller voir. Comme je vous disais, notre attention se porte aujourd'hui tout particulièrement sur les femmes les plus vulnérables, oui. Donc celles qui sont en situation d'handicap, voire d'handicap pluriel. Donc l'idée avec les acteurs du territoire et les partenaires du territoire, c'est de faire des permanences là où elles sont identifiées. D'accord. Donc dans des espaces où elles vivent, elles travaillent ou sont accueillies, de manière à ce qu'on puisse créer ce trait d'union de confiance pour qu'elles puissent nous identifier comme une structure ressource pour pouvoir travailler ces violences qu'elles vivent. Et puis de l'orientation faite par des professionnels, tout corps d'État, j'ai envie de vous dire, pour reprendre le terme du bâtiment.
Oui,
donc
oui.
À la fois par des professionnels du social, mais pas que, du médical, des associations, une école. Aujourd'hui, tous les professionnels qui vont rencontrer sur leur parcours de vie ou leur parcours professionnel une femme qui est identifiée vivant des violences au sein de sa famille ou au sein de son couple peut être orientée chez MSF 95.
Et alors MSF 95, c'est un lieu d'hébergement elles viennent tous les jours, comment cela fonctionne?
Alors non, c'est un espace d'accueil, donc c'est pas un lieu d'hébergement, ce sont avant tout des bureaux professionnels qui sont très accueillants, qui sont très centrés, ils sont à 30 mètres de la gare RER à Cergy-Saint-Christophe et en face de l'hôtel de ville, dans un quartier qui est très associatif. Donc pour moi, l'accessibilité était très importante pour ces femmes,
absolument.
Pas parce qu'elles sont PMR, mais parce que simplement c'était important qu'on soit repérable et identifié. Donc c'est un espace d'accueil et effectivement la question de l'hébergement, Jacqueline vous l'a soulevé à juste titre, parce que effectivement quand on parle de violence, à un moment donné il faut parler d'exfiltration, enfin de quitter le lieu dans lequel on vit des violences, et forcément la question de la mise en sécurité arrive très rapidement derrière. Donc aujourd'hui nous n'avons pas de place d'hébergement, mais c'est un choix, puisque l'idée est de travailler avec les partenaires du territoire et avec l'État des espaces dédiés aux femmes en situation d'handicap. Donc des espaces sécures mais complètement aménagés pour qu'elles puissent aussi être en phase avec leur handicap. Voilà, donc l'idée à moyen terme, c'est de penser des hébergements complètement adaptés, pas que PMR, mais tout type d'handicap.
Bien sûr. Et puisque c'est vraiment le cœur du sujet, quel est votre point de vue aujourd'hui sur la situation des violences faites aux femmes en France ?
Alors moi je suis très inquiète.
Oui.
Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui c'est 1 femme sur 3 qui tombe sous les coups de son mari chaque année. Pour les femmes en situation de handicap, nous avons aujourd'hui 1 femme sur 5 qui va subir un viol ou une agression sexuelle. C'est 35% de ces femmes dites aussi en situation d'handicap qui sont finalement les plus exposées aux violences, qui à un moment donné vont vivre une situation de violence au sein du couple ou au sein de leur famille, donc parents, tutelle, curatelle, etc. C'est également aujourd'hui 62% d'entre elles qui n'osent pas libérer leur parole. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas ou identifié de lieu ressource ou elles ne sont pas suffisamment sécurisées pour qu'elles puissent libérer leur parole et engager un travail réparateur, voire peut-être judiciaire, autour des violences qu'elles vivent.
Les chiffres sont préoccupants. Néanmoins, l'État fait beaucoup, pas suffisamment encore à mon goût, mais fait beaucoup. En tout cas, moi, j'ai été écoutée, j'ai été soutenue durant ces 9 derniers mois et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans cette conscience collective et j'ai envie de dire dans cette efficience collective qu'on va, que mon pari à moi, mon premier pari à moi est gagné dans la mesure où on m'a tendu la main, dans la mesure où ce problème, effectivement, c'est un véritable fléau, c'est un vrai sujet. On n'est pas dans un
non-sujet. Oui, c'est un sujet vraiment sociétal, oui.
Mais très clairement. Et c'est vraiment la cause de tous. Voilà, et de toutes. On doit tous être concernés par ces questions. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'une femme puisse avoir peur en étant chez elle. Il n'est pas normal qu'elle puisse avoir peur en étant dans un espace public. Il n'est pas normal qu'une femme ne puisse pas sortir le soir ou s'habiller comme elle veut. Aujourd'hui, on vit dans une société de liberté et je pense que la plus grave des libertés, c'est quand effectivement on ne peut plus, en tant que femme, faire ce qu'on a envie de faire. Voilà.
Je comprends. Alors, comment un sujet important, comment gérez-vous le financement et les ressources nécessaires pour maintenir et développer vos activités?
Alors au niveau des ressources, c'est un vrai sujet également. Sur le plan financier, aujourd'hui, les ressources sont diversifiées. Elles émanent des collectivités territoriales, celles qu'on connaît sur notre département. Elles sont avant tout départementales. On espère pouvoir répondre à des appels à projets sur le plan régional, sur le plan de l'insertion professionnelle et sur le plan des violences faites aux femmes au niveau de la région, parce que la région fait également beaucoup sur ces thématiques.
Le département et la région
font énormément sur ces thématiques-là. Et puis, j'ai conscience également que aujourd'hui, les enveloppes se réduisent d'année en année et que les besoins, par contre, accroissent d'année en année. Et malheureusement, le chiffre des violences, lui, augmente également. C'est qu'à un moment donné, il faut des fonds privés. Et pour moi, qui ai travaillé plus de 20 ans en entreprise privée, être dans une association, ce n'est pas incompatible avec un portage privé d'entreprise ou d'une fondation qui pourrait nous apporter des moyens financiers pour pouvoir justement mettre au service de ces femmes des prestations paramédicales telles que celles-ci, puisque on sait que ce n'est pas remboursé aujourd'hui par la CPAM et que ça a un coût, pour la patiente ou la cliente, mais ça a aussi un coût pour l'association. Donc les finances sont à la fois public, c'est important, et privé, et j'espère qu'ils le seront de plus en plus privés, parce que si on veut déployer des projets de plus en plus intéressants et diversifiés, il faut aller chercher des financements.
Des financements. Ouais. Et comment le grand public peut-il soutenir la maison Solidarité Femmes?
En y adhérant, 95, déjà, oui. Parce que plus on y adhère, et puis on a une force de frappe sur le territoire plus importante, et puis par le mécénat de compétences, voilà, et puis par des dons. Voilà, il y a sur le site, pour l'instant, il est élaboré juste sur une première page, mais il y a via Eloasso un bouton qui permet de faire un don et le moindre euro est utile. Voilà, il n'y a pas de petits dons. Et puis apporter aussi vos missions en tant que bénévole, c'est important, puisque pour moi une association, son âme, c'est aussi le bénévolat. Moi je l'ai été pendant 9 mois pour créer cette structure, et donc on a besoin de bénévoles pour pouvoir en parallèle de l'équipe professionnelle mener à bien ce projet en faveur de ces femmes et de leurs enfants.
Alors, comment voyez-vous l'avenir de la maison Solidarité Femmes du Val d'Oise?
Moi, je le vois très optimiste. Aujourd'hui, j'ai tous les encouragements et j'ai cette prise de conscience. Et mon premier challenge était effectivement d'apporter une espèce de conscientisation sur le territoire, bien qu'elle était présente, mais encore plus après la fermeture de Du Côté des Femmes, de dire ce combat ne doit pas mourir, ne doit pas s'éteindre avec cette association.
Bien sûr.
Nous devons nous relever de ce traumatisme, puisque ça a été un traumatisme pour l'ensemble du corps professionnel et des institutions. Donc c'était de dire soyons résilients et continuons à œuvrer contre ce fléau. Moi je le vois, voilà, moi je suis très optimiste, hein. Je ne sais pas si c'est mon signe, mon ascendant, mais...
Non, il y a autre chose.
Ah, il y a autre chose. Je vois toujours mon verre à moitié plein.
Vous avez cette passion et cette énergie. Hein, donc
je ne le vois pas autrement que dans la continuité de ce combat pour faire avancer les causes. Il n'y a pas de petite victoire. Chaque pierre à l'édifice pour ses femmes et ses enfants, c'est une victoire. Donc, et encore une fois, ce n'est pas un problème isolé, ce n'est pas des personnes isolées, ça peut être demain notre sœur, notre tante, notre cousine, notre voisine ou notre meilleure amie ou notre collègue de travail, parce qu'on la voit se maquiller un peu trop alors qu'elle vient de subir le énième coup la veille au soir. La question des violences, c'est une question avant tout de société, donc c'est tous et toutes que nous devons œuvrer pour que ces femmes qui sont peut-être nos filles demain, nos familles demain ou nos amis demain puissent vivre en paix avec ça.
Mariam, vous avez une actualité à nous annoncer. le lancement du premier réseau d'accompagnement protégé.
Oui.
Le 25 novembre, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, le 25 novembre est juste pour rappeler la journée internationale, pardon, de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, pour moi, il me semblait important que, pour cette journée-là, le réseau d'accompagnement protégé puisse être lancé, puisqu'il est le premier lieu, je le répète, le premier lieu sur le département du Val-d'Oise à être identifié comme étant un lieu ressource pour les femmes ayant la double peine des violences et de l'handicap. Donc, je profite de cette journée pour mettre en lumière ce dispositif.
Eh bien, en tout cas, c'est un accompagnement qu'on essaiera de relayer au mieux sur IDFM Radio. Merci infiniment à vous, chère Mariam. J'avais envie de dire, avec un nom pareil, hein, Baraka, tout ne peut que vous réussir.
Hein. J'espère.
On vous le souhaite.
J'espère en tout cas que les planètes vont continuer à être alignées.
À s'aligner. Merci infiniment.
Merci à vous.
Merci de nous avoir, en tout cas, permis d'explorer en profondeur, hein, votre travail, votre engagement, tout en nous offrant une vue d'ensemble des enjeux auxquels va être confrontée votre maison Solidarité Femmes 95, MSF 95. Voilà, on formule aussi tous nos voeux de succès, hein, pour ce formidable
défi. Merci infiniment, merci de m'avoir permis cette visibilité.
On n'a finalement pas tellement abordé le bien-être sous son côté enjeu économique, mais bon, à travers tout ce qui a été dit, peut-être juste un mot, Pierre, on en a parlé pendant une pause, c'est les activités enfin les thérapies qui vont être présentées au salon. Alors, ne sont pas remboursées par la sécurité sociale.
Non, tout à fait, puisque la seule profession de santé, c'est pour laquelle il y a eu un décret il y a plusieurs années, c'est l'ostéopathie, mais c'est un décret qui a permis de reconnaître l'ostéopathie en tant que profession non pas paramédicale, puisque le terme paramédical n'est réservé qu'à certaines professions comme les kinésithérapeutes et les podologues, etc. Donc c'est encore autre chose, c'est un problème de prise en charge. Alors, de prise en charge, c'est vrai que les mutuelles d'entreprise,
oui,
remboursent certains soins, mais c'est vrai que c'est encore, il y a un progrès à faire là-dessus. Hein. Et moi, je voulais rebondir aussi sur une activité qui est intéressante pour le salon, sur laquelle il faut. C'est très nouveau cette année, puisque le samedi 28, Florent, je pense, ne me trompe pas, on a un concert Voyage Sonore qui va être effectué. C'est une expérience immersive, hein, avec des bols tibétains et des gongs. Donc c'est le soir du samedi, c'est 19h, je crois, il me semble.
C'est 19 à 20h.
Et ça, j'invite vraiment les gens qui pourront se rendre le samedi au salon de participer à ce petit concert assez nouveau.
C'est vrai que la musique fait partie aussi du bien-être, c'est clair.
Exactement.
Merci Pierre pour ce mot de conclusion. Florence, un petit mot de conclusion avant de quitter.
Non, bah écoutez, je vous remercie beaucoup effectivement de m'avoir accueilli avec mes confrères pour parler de santé essentielle et de la médecine douce, entre guillemets. Je voulais préciser ou corriger plutôt ce qu'a dit Pierre au début, c'est qu'il a parlé de praticiennes qui s'occupent de l'association, mais il y a aussi des praticiens. Ils sont peu nombreux, mais il y a quand même des hommes.
C'est ça.
J'ai pas relevé au moment où tu l'as dit, mais c'est vrai que il y a quelques hommes.
Je me sens moins seul depuis quelques temps dans le groupe. Oui.
Merci Florence. Martin Nolo, un mot de conclusion.
Alors, j'en profite pour parler un petit peu d'astrologie mondiale.
Oui.
C'est-à-dire que on est dans une période en ce moment très agitée au niveau social et sociétal. Alors, ça correspond au niveau astrologique à la planète Pluton.
D'accord.
Alors, la planète Pluton, c'est la planète la plus éloignée du Soleil. Elle met 248 ans pour faire le tour du zodiaque et elle reste en gros de 20 à 30 ans dans un signe. Alors là, Pluton est resté très très longtemps dans le signe du Capricorne, qui est le signe des institutions, des politiques qui serrent la vis.
Je suis Capricorne.
Du verrouillage. Et alors là, elle est en train de passer en Verseau. Le signe du Verseau, c'est le signe des révolutions. Alors il faut vous dire que la dernière fois que Pluton se trouvait en Verseau, c'était en 1789.
Ah, d'accord.
La période révolution française, révolution américaine. Donc là, Pluton est sur le point de passer en Verseau. Il passera exactement en Verseau le 19 novembre. Et on peut très certainement penser qu'à partir de cette période, il va se passer énormément de choses au niveau social et politique, au niveau mondial. Hein. Donc,
on va voir. On va regarder. Faites ça. Déjà, il y aura les élections américaines ce moment-là.
Voyez, c'est pas hasard
non plus. Oui, c'est sûr.
Alors, faut vous dire aussi un petit truc amusant, c'est que Pluton, enfin comme toutes les planètes, font un peu du yo-yo. Elle avance, elle recule, etc. Mm-hmm. Alors là, elle est passée en Verseau, elle est reculée, elle est revenue en Capricorne, juste au moment où Michel Barnier est nommé. Alors Michel Barnier, c'est un petit peu le retour à la stabilité.
C'est plus consensuel,
Plus consensuel, etc. Mm-hmm. Mais ça ne va pas durer. Et à partir du 19 novembre, il est possible que ça explose.
Que Michel Barnier sorte.
Voilà, que tout explose.
Prenez vos paris. Hein.
Bon, mais écoutez, on va suivre ça de très près. Merci infiniment.
En tout cas, le Pluton en Verseau laisse présager de nombreux bouleversements dans les mentalités, dans la société, dans quelque chose de plus humaniste et de plus égalitaire, de plus juste, une société plus juste.
C'est plutôt positif,
voilà,
alors.
Ça, c'est très positif.
Merci infiniment, Martin Nolot. Mariam Baraka, le mot de la fin est pour vous. Donc, avant de nous quitter, un mot de conclusion.
Alors moi, j'ai envie de répondre à Martin. J'ai envie de dire que devant toute cette turbulence qui se présage, en tout cas dans cet avenir proche, moi, j'ai profondément confiance en l'humanité et en ce qu'il y a de meilleur au fond de chacun d'entre nous. Donc, j'aspire à une société plus égalitaire, plus inclusive, plus juste, de faire reculer tous les fléaux. Donc, faisons-nous confiance et écoutons notre voix intérieure.
Tout à fait. Et alors, je précise juste que il y a plus que Scorpion et Capricorne dans ton thème. Il doit y avoir un signe d'espérance. Il y a plus que ça, parce que Scorpion et Capricorne, c'est quand même des signes qui sont un petit peu sombres, un petit peu pessimistes, etc. Or, il y a beaucoup d'optimisme.
Oui, il y a beaucoup. Oui, Mariam est solaire, donc c'est clair.
Chez toi, donc il doit y avoir.
Je propose qu'ils reprennent rendez-vous pour une consultation privée.
Oui.
En dehors du plateau, je pense. Ça va peut-être me guider.
Chose comme ça.
Ça va peut-être me guider. Voilà. En tout cas, merci, Martin. Moi, je crois en l'humain. Voilà, je crois en la cause. C'est ça l'essentiel. Vivons ensemble et vivons bien.
Complètement. Voilà. Merci pour ce mot de la fin.
Un dernier petit mot, excusez-moi, mais juste pour rebondir à ce que disait Mariam, moi qui suis quand même un ancien dirigeant de BTP et qui pratique encore beaucoup le BTP, la femme a énormément sa place dans le BTP, elle est très présente dans le BTP, de plus en plus, moi je le vis puisque j'étais dirigeant d'une entreprise de peinture.
De peinture, justement.
Donc je connais bien, j'ai beaucoup de collaboratrices dans le domaine de l'étude et dans le domaine du suivi. Sur le terrain, c'est vrai que c'était plus rare, mais c'est arrivé, et je dis que oui, il n'y a pas de souci, c'est un avenir pour la femme
de BTP. Clairement, on oriente et ce sont des. En tout cas, c'est un secteur d'activité très porteur, où effectivement il peut y avoir et une pérennisation de l'emploi et surtout une possibilité d'évoluer dans sa carrière professionnelle. Et c'est pour ça qu'on incite les femmes à s'orienter dans le milieu du BTP. Je vous rejoins totalement.
Tout à fait.
Bon, encore une fois, merci d'avoir été les invités en direct avec cette synergie qui a bien fonctionné. Je crois qu'on pourrait continuer encore pendant une heure sans se fatiguer. Mariam, en tout cas, on fera tout pour mettre en avant cette maison Solidarité Femmes. N'hésitez pas à nous faire savoir les nouveautés, et puis tout ce qu'on pourra relayer, nous le ferons.
On fait une porte ouverte normalement avant la Toussaint et je vous invite tous et toutes.
Complètement. Voilà,
pour fêter ensemble.
On le redira et puis on le signera.
Cette noble cause.
Absolument. Et puis Pierre, vous nous tiendrez au courant du succès de votre salon.
Avec grand plaisir.
Merci que l'on vous souhaite à tous, bien évidemment. Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le site de IDFM Radio. Et vendredi prochain, nous retrouvons alors une institution très connue dans le Val d'Oise, la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Alors à vendredi, d'ici là, bonne journée et belle semaine.
diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.